Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business, Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec Jean-Marc Daniel comme tous les jours. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
On va décrypter l'actualité ensemble avec nos invités, nos reporters. Au sommaire de ce vendredi 4 novembre, attention à l'électrification de l'automobile à marche forcée. Alors que la fin des moteurs thermiques a été décidée par l'Europe pour 2035, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton fait part de ses doutes. Nous allons en parler dans ce journal avec Justine Vassogne. 50% des quelques 7500 employés de Twitter pourraient être remerciés et la purge commence aujourd'hui aux États-Unis. Annonce d'Elon Musk, le nouveau patron du réseau social. On va en parler dans notre focus avec Anthony Morel. Et puis, avec notre invité Didier Georges, le proviseur de l'école hôtelière de Paris, nous parlerons attractivité d'un secteur en souffrance. On parlera formation, évolution du secteur également. Ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis, à 12h30, deuxième partie de l'émission BFM avec vous, Lorraine, on va recruter des cadres aujourd'hui.
Oui, ça va être vraiment le sujet. On est avec un des plus gros recruteurs de cadres. Il s'agit du cabinet de conseil en stratégie Capgemini. 9400 cadres prévus au programme de recrutement pour 2022. On parlera de ce qui restera à recruter pour 2023.
Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. Le coup de gueule de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, s'en prend dans une interview aux Échos à la décision de l'Union européenne d'interdire la vente de voitures thermiques après 2035. Justine Vassogne, Thierry Breton qui espère pouvoir finalement repousser l'échéance.
Oui, parce que pour Thierry Breton, cela va trop vite, trop fort. Le commissaire européen s'est trouvé une arme pour gagner du temps, une clause de revoyure dès 2026 qui permettra éventuellement de repousser l'échéance. Vous l'avez dit, l'interdiction de la vente de voitures thermiques, elle est fixée en Europe à 2035. Tous les trois mois, Thierry Breton va réunir les grands constructeurs automobiles, les fournisseurs, les syndicats et les associations d'usagers pour voir comment mettre en œuvre cette méga transformation, ce sont ses mots, et s'il est possible de la réaliser pour 2035. Cette transformation, elle pose trois défis majeurs. D'abord, elle risque de détruire 600 000 emplois en Europe, selon les calculs de Thierry Breton. La question du prix est aussi un problème parce qu'une voiture électrique, c'est aujourd'hui 27% plus cher qu'une voiture à essence. Reste enfin le problème des matières premières. Il va falloir 15 fois plus de lithium, 4 fois plus de cobalt, 3 fois plus de nickel pour produire toutes ces voitures électriques.
Ce que dit aussi le commissaire européen au marché intérieur, Justine, c'est qu'il ne faut surtout pas renoncer au thermique.
Oui, l'Europe a interdit la vente de moteurs thermiques en 2035, mais ce n'est pas le cas de l'Afrique, de l'Amérique latine. Même en Europe, des voitures thermiques vont continuer de circuler jusqu'en 2050, estime Thierry Breton. Il ne faut surtout pas abandonner ce marché. C'est un pavé dans la mare que jette le commissaire européen, alors que tous les constructeurs automobiles européens sont en train d'électrifier leur gamme à marche forcée. Pour le moment, aucun n'a réagi à ces déclarations, mais nul doute que certains vont saisir la balle au bon, parce que tous partagent l'inquiétude de Thierry Breton.
Jean-Marc, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à l'électrification.
Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mmh. Alors, concernant ce dossier, il y a deux lectures. Il y a une première lecture qui va être faite, certainement. Il a cédé au lobby des dirigeants d'entreprises automobiles. Il se soumet, alors qu'il y a un objectif environnemental qui était clair et qui est une exigence qu'il faudrait satisfaire. Il a cédé aussi au lobby syndicaux, c'est-à-dire que on n'imagine pas qu'au 19e siècle, les cochers aient obtenu l'arrêt des la création des chemins de fer en disant, vous comprenez, notre emploi va disparaître, donc il va falloir éviter ce genre. En revanche, la deuxième remarque que je ferais, c'est que Thierry Breton, il est quand même ingénieur, et il est ingénieur de l'école supérieure d'électricité.
Oui.
Alors, je ne sais pas quel souvenir il a gardé de ses études, mais je pense quand même qu'il a conscience que tous les discours sur l'électrique, le moteur électrique, l'électricité, installation de bornes, ça se heurte aussi aux lois de la physique. Il faut tenir compte de l'effet joule, de la production d'électricité. Et donc, je pense qu'il y a une vision négative de ce qu'il fait qui consiste à dire il se soumet au lobby. Et il y a une vision positive. Il est ingénieur.
Oui, effectivement, il faut le prendre en compte. En tout cas, il pourra en parler, Thierry Breton, lundi matin à 8h10, parce qu'il sera l'invité de Good Morning Business. Merci beaucoup, Justine Vassogne. Alors que le projet de loi sur les énergies renouvelables est actuellement examiné au Sénat et qu'il se heurte à une certaine réticence à droite, Xavier Barbaro, le patron de Neoen, le géant des énergies renouvelables, estime, lui, qu'il y a urgence à accélérer les projets. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin. On l'écoute.
La France est le seul pays à avoir raté ses objectifs en 2021 dans l'Union européenne en termes de verdissement du mix. Il y a une urgence économique, évidemment, puisque le renouvelable, ce qu'on disait, est la source d'énergie la moins chère. Et puis, il y a aussi une urgence, on va dire, géopolitique. Avoir de l'énergie renouvelable produite en France, c'est de la souveraineté en plus. Chaque éolienne en France, c'est 2000 personnes de plus qui basculent vers cette électricité verte, compétitive et souveraine. Et il y a encore beaucoup de difficultés. Il y a des intentions qui sont bonnes affichées par le gouvernement. Aujourd'hui, l'administration, on ne sait pas encore si c'est une courroie de transmission ou si c'est un frein. Ouais. Ça dépend des régions d'ailleurs. Parfois, ça se passe bien et ça accélère. Parfois, au contraire, on sent qu'il y a encore un peu de résistance. Mais il y a une urgence et on espère qu'elle va être comprise à tous les échelons de l'administration.
Et puis dimanche, c'est le grand départ de la 12e Route du Rhum, cette course en particulier et la voile en général séduisent de plus en plus de sponsors. Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux et pour certains aussi fidèles depuis plusieurs années? Élément de réponse avec Nathan Cocampo.
138 bateaux et bien plus de sponsors se préparent à s'élancer du port de Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Un nombre record pour cette 12e édition de la Route du Rhum. Il y a d'abord les retombées économiques de courses devenues mythiques. 55 millions d'euros pour Banque Populaire pour sa victoire sur le Vendée Globe 2017. Et ce, pour un budget annuel consacré à la voile de 7,5 millions d'euros. Images des voiliers utilisés dans des spots, jeux concours, partenariats avec des clubs, tout est bon à prendre pour les marques. Pour les entreprises qui s'engagent dans ce sport depuis des années, comme Banque Populaire depuis 33 ans, ou encore Sodebo ou Bureau Vallée, la voile sert à fédérer en interne. Un sport où l'humain est au centre, dans un esprit aventurier qui plaît aux entreprises. De la conception du bateau à l'arrivée, les entreprises surfent ainsi sur les différentes courses et sur l'attractivité de plus en plus forte de la voile chez les Français. Plus 36% en 6 ans, selon l'analyste Kantar Media. Ce dimanche, le départ de la Route du Rhum devrait être suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs à la télévision.
Voilà, et sachez que Jean Le Cam, le navigateur, sera ce soir à 19h dans Les Pionniers chez Fred Mazzella. Vous allez suivre la Route du Rhum, Jean-Marc ?
Pas vraiment, je dois avouer.
Bonjour Jean-Marc.
Je viens d'un département qui a une façade maritime importante.
Bah, c'est vrai ça.
Mais je viens d'une partie de ce département qui s'appelle l'Entre-deux-Mers. Donc on pourrait penser que la mer m'intéresse, mais pour les gens qui s'intéressent à la géographie, l'Entre-deux-Mers, c'est la partie du département de la Gironde qui est la plus loin de la mer,
oui,
qui est totalement à l'est.
D'autres intérêts du coup de cette région. C'est l'heure de notre focus tout de suite. Et on entendait à l'instant que l'humain est au centre de la voile. C'est pas vraiment le cas chez Twitter, visiblement. Tony Morel, c'est le grand ménage qui se poursuit. Hein, après avoir licencié le directeur général, des hauts cadres du réseau social, Elon Musk s'apprête à débuter aujourd'hui une vague de licenciements massifs. On peut parler peut-être d'une purge hein, à ce niveau-là.
À ce niveau-là, oui.
Anthony, il pourrait remercier jusqu'à la moitié des 7500 salariés de l'entreprise.
Ouais, ça a commencé d'ailleurs. J'ai commencé à voir sur Twitter des ingénieurs, des ex-ingénieurs du coup de Twitter qui disaient ça y est, je me suis fait virer. Ils l'ont appris par un mail collectif qui leur a été envoyé, hein, cette vague de licenciements massifs. Je cite le mail: nous reconnaissons qu'un certain nombre d'individus qui ont réalisé des contributions notables pour Twitter vont être affectées, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir. On parle quand même de virer la moitié des 7500 salariés de l'entreprise. Je vous laisse imaginer l'ambiance parce que personne ne sait qui reste et qui part. Visiblement, circulent en interne des listes des ingénieurs qui produisent le plus. Alors il y a vraiment des listes de comparaison entre les ingénieurs, les différents informaticiens, etc. Donc ça met quand même une ambiance un petit peu particulière.
Même là, visiblement, quand on a été performant, on peut quand même être viré. Hein,
ah oui, absolument, aussi. Absolument. Alors il a demandé en fait, en arrivant, la première chose qu'il a faite, c'est il a demandé à tous les ingénieurs de lui imprimer leurs 30 derniers jours de lignes de code, donc les milliers de lignes de code qu'ils ont écrites, et il les a relues lui-même avec des ingénieurs de Tesla qu'il a fait venir pour voir quels éléments étaient les meilleurs et lesquels ne pourraient pas rester. Et puis, alors, il y a un truc un peu contradictoire parce que à la fois, va dire, il fait une purge effectivement assez massive, mais en même temps, il leur demande des deadlines complètement folles. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup parlé de la version premium de Twitter à $8 par mois qui a été annoncée cette semaine par Elon Musk. Elle doit être opérationnelle dès lundi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente en termes de développement informatique. Ça demande quand même beaucoup de boulot, et à tel point qu'on a vu des images assez dingues. Il y a une photo qui a fait le tour du web où on voit une salariée de Twitter, alors qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est la directrice des produits de Twitter, qui est allongée, couchée dans son bureau, par terre, et qui fait, voilà, qui fait un shift de 24 heures finalement. Et apparemment, les managers demandent à leurs équipes là, de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, en leur expliquant que c'est de leur emploi qu'il s'agit.
Est-ce que pour autant, Elon Musk va pouvoir réaliser toutes ses ambitions pour ce réseau social en divisant les effectifs par deux?
Oui, c'est-à-dire faire plus avec moins, ce qui semble assez compliqué, parce que moins de salariés, ça veut dire effectivement moins d'ingénieurs, moins de modérateurs, ce qui fait partie un peu de son projet, parce que son idée, c'est quand même d'avoir un espace de discussion plus libre. Mais ça fait aussi peur aux annonceurs, d'avoir un espace de liberté d'expression complet. Certains commencent à suspendre leur publicité sur le réseau social. Donc il y a ce truc où il y a une vraie pression financière d'Elon Musk sur Elon Musk. Il a payé son nouveau joujou 44 milliards de dollars. C'est très cher, même pour lui, surtout à un moment, on est en pré-récession, où les groupes technologiques sont en train de se casser la figure. Et là, il y a son modèle économique qui va peut-être être remis en question par des annonceurs qui vont être de plus en plus méfiants. Et en même temps, ils virent du monde, et donc des modérateurs potentiellement. Donc là, il y a un gros challenge là, à relever pour Elon Musk.
On a l'impression cette semaine que les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas, hein, pour Twitter. Jean-Marc.
Oui, ce que je trouve intéressant dans cette opération, dans cette affaire, c'est que effectivement, il y a la phase dans la tech comme partout, de l'entrepreneur, où on innove, on découvre. Et puis, ce que dit bien Schumpeter, qui a théorisé tout ça, il dit ensuite la phase d'après, c'est l'imitateur. Il y a tout un tas de gens qui font la même chose que vous. Et puis la dernière phase, c'est le cost killing. C'était, on commence à liquider un certain nombre de gens, à réorganiser l'entreprise. Et donc, le problème, je pense, d'Elon Musk, c'est qu'il a été très longtemps un entrepreneur, il a fait des innovations et tout ça. Il est en train de devenir un cost killer. Et donc, je pense que ça met autant en cause la vie quotidienne des gens que sa personnalité même. Est-ce qu'il n'est pas en train de changer? Et est-ce qu'il ne va pas devant de sérieux déboires? Alors qu'il fasse de la gestion et du cost killing, oui. Mais s'il finit par ne plus faire que ça, je pense qu'une partie de son projet humain, de son projet personnel, aura été abandonné.
À l'avenir nous le dira, en tout cas.
D'autant qu'il le disait au moment du rachat de Twitter, hein, moi je ne fais pas ça pour l'argent, l'économie, les chiffres, je m'en fiche. On voit bien qu'il est quand même rattrapé à un moment par la réalité économique.
Maintenant il est en pur gestionnaire.
Merci messieurs. Allez, tout de suite, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous revenez sur les résultats des banques après la BNP, résultats meilleurs qu'attendus aussi aujourd'hui pour la Société Générale. Ça va bien, quoi?
Écoutez, oui, on n'a pas tellement de bonnes nouvelles, et surtout que dans ce secteur, assez souvent, on associe les crises à la finance. La crise, d'ailleurs, est assez systématiquement définie comme étant une crise financière, et on a le souvenir de l'année 2008 où c'est le dépôt de bilan, la faillite de Lehman Brothers, qui a été l'élément déclenchant de la récession 2009. Donc là, on a plutôt une bonne nouvelle, mais dépassant l'aspect conjoncturel, et je pense qu'il y a deux éléments qui jouent en faveur du secteur bancaire. C'est que 2008-2009 a été comprise, donc là, toute cette période-là a été totalement intégrée par les banques et par les régulateurs, et donc les banques ont accumulé pas mal de fonds propres. Quand on regarde l'évolution des bilans, des structures de bilans, elles ont beaucoup plus de fonds propres qu'elles n'avaient il y a encore une dizaine d'années, et donc la prudence est quand même au rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est que la hausse des taux d'intérêt pénalise, mais aussi favorise les banques. Ça pénalise les banques parce que toute une partie de leurs actifs sont en train de perdre leur valeur. Toutes les dettes qu'elles avaient, qui rapportaient assez peu, maintenant, si elles veulent s'en défaire, plus personne ne voudra les acheter, puisqu'on pourra récupérer de l'argent avec des taux d'intérêt plus élevés. Mais en revanche, elles vont se remettre à gagner de l'argent, justement, en prêtant. Et c'est quand même la vocation d'une banque. La vocation d'une banque, ce n'est pas de gagner de l'argent sur la gestion des comptes, ce n'est pas de facturer à tous les individus la moindre opération, c'est de prêter pour créer de la richesse et pour récupérer une partie de cette richesse. Or, la hausse des taux d'intérêt favorise ça, et donc on peut penser que ce secteur va avoir devant lui une période un peu plus faste que les 10 années qu'il vient de vivre.
Avec le taux d'usure, ça risque pas de coincer un petit peu à un moment?
Il faut que la Banque de France suive, c'est quand même la grande revendication. Voilà. Et donc le gouverneur de la Banque Centrale dit « je suis au courant », l'actuel de la Banque de France dit « je suis au courant, je regarde ça de près, ne vous inquiétez pas ». Je pense quand même qu'il faut qu'il soit assez réactif.
Oui, parce que là ça remonte très très vite, et c'est là, que tous les 3 mois.
Oui, en ce moment on est en train d'empêcher les banques de faire leur métier. métier, qui est de prêter, parce qu'elles ne sont pas en position de donner les taux d'intérêt qu'elles sont en droit de réclamer.
Merci Jean-Marc. Allez, tout de suite, on fait un point à Euronext. Avec vous, Aude Kersulek, le rebond du CAC 40 à la mi-journée, plus 2%, tout ça grâce à la Chine, Aude.
Oui, dans le sillage des marchés chinois ce matin qui avait bien bondi, où cette spéculation de réouverture de l'économie chinoise tient encore. Cette rumeur, elle était apparue déjà il y a 2-3 jours avec l'idée qu'un comité de réouverture serait en train d'être mis en place. Pour l'instant, pas du tout confirmé par les autorités chinoises, mais on s'accroche toujours à cet espoir. Et ce matin, du côté de Hong Kong, on a bondi de 6,5%. Et c'est ce qui tient nos marchés aujourd'hui, plus 2,2% sur le CAC, 6384 points, et notamment des valeurs liées au luxe et aux matières premières, très exposées à la Chine, qui sont dans les premières places. Alors ArcelorMittal qui prend 6,1%, 23,45 €, et aussi le luxe, LVMH, Hermès, L'Oréal qui prennent toutes plus de 4%, Kering aussi plus 1,2%. Alors Kering, il y a aussi la rumeur d'un prochain rachat de Tom Ford, voilà aussi ce qui fait particulièrement flamber la valeur. Et puis il y a aussi cette publication qui fait la joie des investisseurs ce matin. Vous en avez déjà parlé. Société Générale avec son résultat net sous-jacent à 1,4 milliard d'euros, un coût du risque qui augmente à cause de la conjoncture, mais pas les défaillances sur crédit, et une activité de BFI de marché qui progresse encore. Donc c'est plutôt une belle publication et c'est très bien accueilli, 5,3% dans la lignée de l'accueil qui avait été réservé à la publication de BNP Paribas hier. Et puis une grosse percée sur l'indice large pour JC Deco, le publicitaire, plus 9% sur le titre, 14,17 €. Alors là, la croissance organique est estimée à 9% à paramètre constant. L'affichage publicitaire, ça marche d'autant plus que le trafic aérien a bien repris. Le point qui pénalise cette publication, c'est encore la Chine, sauf que évidemment sur fond de réouverture comme on a aujourd'hui, eh bien, les investisseurs se disent que ce n'est pas si grave que ça et que ça va aller beaucoup mieux, voilà, ce qui fait flamber la valeur. Donc plus 9,8% pour JC Deco.
Et rapidement, on attend plutôt tranquillement les chiffres de l'emploi américain, Aude.
Oui, 13h30, une heure avant l'ouverture de Wall Street. Alors, le consensus est attendu à 200 000, la création de postes, une augmentation attendue légère du taux de chômage à 3,6%, et puis le salaire horaire qui devrait lui aussi augmenter. C'est aussi ça qu'on regarde, le salaire, l'augmentation des salaires, parce que ça nous en dit beaucoup sur les anticipations d'inflation. Ça devrait être toujours un marché de l'emploi robuste. Et le paradoxe, c'est que si ces chiffres, bien évidemment, sont trop favorables, ça enverra un signal négatif au marché, qui se dirait, bien que le message sévère qu'a envoyé la Fed mercredi soir sur les hausses de taux, eh bien serait confirmé. On va continuer de monter les taux et même plus haut que ce qu'on pensait avant mercredi soir. Et puis à signaler aussi les dernières déclarations de Christine Lagarde encore ce matin, qui nous dit vraiment que l'inflation ne doit pas s'enraciner et qu'elle continuera de prendre des mesures supplémentaires si c'est le cas. Toute la question, c'est de savoir lesquels marcheront.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. Dans un instant, on va parler hôtellerie, restauration, secteur en tension. S'il en est, comment attirer de nouveau les jeunes? Est-ce que les profils évoluent? On va poser ces questions à Didier Georges, le proviseur de l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouan. C'est dans une minute. À tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Didier Georges, proviseur de l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouan. Merci d'être en direct avec nous, Didier Georges. Vous formez les jeunes aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers particulièrement en tension en ce moment. J'aimerais savoir de votre point de vue, depuis votre regard dans ce lycée, comment vous constatez cette sorte de désertion du secteur ?
C'est les conditions de travail qui sont à rediscuter sans doute. Il y a une évolution sociétale aujourd'hui indéniable, indiscutable. Les jeunes ont d'autres aspirations, d'autres envies, plus flexibles, plus souples. Enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites à la fois dans le lycée, parce que c'est un travail qu'on fait avec le lab attractivité. On réfléchit à l'attractivité des métiers de l'hôtellerie-restauration. Elles conduisent ces études, elles sont convergentes en tout cas avec les études aussi qui ont été récemment publiées pour dire que la jeunesse a sans doute aujourd'hui d'autres besoins qu'auparavant, et c'est sans doute le monde du travail qui va devoir aussi s'adapter. Alors, évidemment, il faudra que chacun fasse un pas l'un vers l'autre, mais on voit bien les évolutions.
Est-ce que vous le constatez aussi, par exemple, dans le nombre d'inscriptions chaque année ?
Oui, c'est difficile. On est un secteur qui est extrêmement recrutant. Hein. J'ai toutes les semaines des dizaines d'offres de stages ou même d'emplois pour les étudiants et les élèves que nous scolarisons à l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouin. Et néanmoins, le recrutement, en particulier pour la seconde technologique et aussi maintenant un petit peu pour la seconde professionnelle en hôtellerie-restauration, que ce soit pour le service ou la cuisine ou l'hébergement, on a du mal parfois à recruter les élèves parce que la profession, les professions ont mauvaise réputation. Alors on dit que c'est des travaux pénibles, que ce sont des travaux dans lesquels, quand on est en cuisine par exemple, le chef peut être très autoritaire au sens militaire du terme, que c'est très exigeant physiquement, et ça l'est, hein, évidemment, mais c'est aussi des métiers extrêmement épanouissants, qui aujourd'hui d'ailleurs, compte tenu du contexte de tension sur l'emploi, sont beaucoup plus rémunérateurs qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc les choses vont sans doute évoluer positivement, en tout cas nous on le croit.
Une question de Jean-Marc Daniel.
Oui, pour être un peu précis, parce que j'ai pas une claire vision de tout ça, de comment ça fonctionne, vous prenez des gens en seconde et vous leur donnez un bac professionnel?
Alors pour certains, ils vont aller sur un bac professionnel, pour d'autres sur un bac technologique et ma chère, métier de l'hôtellerie-restauration, et puis évidemment ensuite on propose une poursuite d'études jusqu'à la licence professionnelle. Et on a donc une vision d'ensemble à la fois à différents niveaux de qualification, mais même jusqu'à un niveau d'encadrement intéressant. Et on les a interrogés, ces élèves, pour savoir, et ces étudiants surtout, pour savoir un peu quelles étaient leurs aspirations. Et on les voit, les aspirations aujourd'hui. La semaine de 4 jours est une aspiration forte, par exemple, pour eux. Même si cette semaine de 4 jours peut comporter le week-end, par exemple, ils ne sont pas tant que cela attaché au samedi ou au dimanche. Par contre, ils sont plutôt attachés à avoir un très fort équilibre entre le temps de repos et le temps de travail. Entre autres, il y a plein d'autres sujets qu'on a pu étudier comme ça à travers des enquêtes, celles que nous avons conduites, nous, encore une fois, et puis celles qui sont publiées en ce moment, notamment dans les magazines spécialisés. Et
juste une autre question qui peut paraître un peu anecdotique, mais quand on regarde les comptes rendus des gens qui ont été en visite à Paris et tout ça, ils font deux constats. Vous savez, c'est le syndrome de Paris du Japon, c'est les gens ne parlent toujours pas anglais et les gens sont toujours assez peu aimables. Est-ce que vous mettez l'accent sur ces deux aspects dans vos formations ?
Alors absolument, nous, les langues vivantes, c'est un critère extrêmement déterminant dans l'obtention, ne serait-ce que du diplôme, à la fin de la formation, quelle qu'elle soit, que ce soit un bac professionnel, que ce soit un bac technologique et en BTS après, c'est devenu un critère presque à critère égal avec la technicité culinaire ou de service. Le problème de la profession aujourd'hui, c'est que, et je peux comprendre ce que les gens ressentent dans ce que vous me dites, monsieur, c'est que en fait, exercent aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, dans les brasseries parisiennes et autres restaurants qu'on peut côtoyer, beaucoup de gens qui n'ont pas été formés à l'hôtellerie-restauration. Et donc ces gens-là manquent de code, si je peux le dire, puisque nous, ce qui est la raison d'être de notre école hôtelière, c'est de les former à être aimables, c'est de les former au service à la française, qui est, reconnaissons-le, l'excellence du service en restaurant.
Oui, vous l'avez dit, effectivement, c'est un secteur où beaucoup de gens y viennent par opportunité, ou effectivement, qui ne sont pas forcément passés par une école hôtelière pour y exercer. J'avais juste une dernière question d'actualité à vous poser. Est-ce que, d'après vous, mettre la restauration, l'hôtellerie dans la liste des métiers en tension, qui permettrait ensuite de faire appel à des travailleurs qui viennent d'autres pays, est-ce que pour vous, c'est une idée essentielle ? Quelle est votre opinion là-dessus ?
Alors, on rentre dans un domaine un peu plus politique.
Oui,
moi, ce que je vous dirais, c'est que cet été, par exemple, je crois que le secteur hôtellerie-restauration en France a fait appel à des travailleurs, notamment peut-être venus du Maghreb. Alors, ça n'a pas fonctionné aussi bien que l'État le souhaiterait, parce qu'il y avait des questions de logistique. Je crois que la vraie solution aussi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi en France, il y a des emplois à pourvoir, c'est sans doute de former les gens, et puis Pour revenir au cœur du sujet, qui est celui du lab attractivité du lycée Jean Drouan, et je vais d'ailleurs donner une conférence au salon Équipe Hôtel ce week-end là-dessus, c'est aussi à ce que les employeurs fassent un pas vers les employés pour que les conditions de travail, les conditions de rémunération, parce que c'est fondamental, hein. En fait, il faut surtout redonner, je crois, à nos jeunes l'envie de réintégrer ce secteur dont la réputation a pu conduire à cette désertion, mais cette réputation, je pense qu'elle est tout à fait erronée. Moi, je le vois de l'intérieur, je travaille avec beaucoup de professionnels aujourd'hui, et on sent bien que les professionnels sont tout à fait prêts et disposés à prendre des mesures pour que les métiers soient de nouveau attractifs, et puis surtout que les jeunes y restent, parce qu'une des difficultés de ce secteur en tension, c'est pas tant de l'intégrer, c'est aussi d'y rester. Et quand on a 25, 27 ans, qu'on construit une famille, qu'on rencontre un ami, une amie, et qu'on ne le voit pas le samedi, qu'on ne le voit pas le dimanche, et qu'éventuellement on rentre tard le soir, eh ben ça a conduit pas mal de nos jeunes à déserter ce secteur, alors qu'il y a sans doute d'autres solutions à trouver.
Merci beaucoup Didier Georges. Effectivement, je rappelle que vous serez au salon Équipe Hôtel qui se tient dès dimanche, porte de Versailles à Paris. Merci en tout cas de votre témoignage aujourd'hui dans 60 minutes business. Je rappelle que vous êtes proviseur de l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouan. Tout de suite, on accueille Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Alors, qu'avez-vous concocté à Jean-Marc Daniel aujourd'hui, Pierre ? On commence avec les voitures hybrides rechargeables qui, visiblement, n'ont plus la cote.
Oui, alors qu'elles figurent toujours en bonne place dans les concessions automobiles, les hybrides rechargeables ont connu leur premier coup de mou en Europe. Les ventes ont baissé au troisième trimestre, alors que pour les voitures 100% électriques et l'hybride classique, la croissance reste de mise. Jean-Marc, vous savez pourquoi ?
Non, peut-être parce qu'elles sont trop chères.
Eh bien non, il y a les hésitations des automobilistes que résume bien l'économiste Flavien Neuvy. On a tellement parlé des véhicules électriques, c'est ce qu'il dit, hein, de 2035, que les clients sont perdus et se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est le bon choix finalement ? Donc ça, c'est ce que dit Flavien Neuvy. Puis il y a le contexte économique. Les hybrides rechargeables étaient achetés massivement par les entreprises, contrairement aux électriques. Or, souligne François Rouillet, qui vient souvent ici, hein, le porte-parole de la plateforme de la filière automobile, les entreprises, il se trouve que, vu le contexte, elles réduisent fortement leurs dépenses.
Allez, on continue avec les déboires de Made.com, Pierre.
Oui, alors, déboires qui sont parfaitement résumés par Valentin Gris. Je vous rappelle que cette entreprise britannique s'est retirée de la bourse le 1er novembre, qu'elle est en attente d'un administrateur judiciaire pour gérer sa liquidation. Et ses derniers clients, eh bien, ils risquent fort de ne récupérer ni leurs meubles, ni leur argent, y compris d'ailleurs ceux qui pensaient peut-être passer entre les gouttes parce qu'ils avaient acheté en 3 fois sans frais. La banque Onec, et le partenaire choisi par Made.com pour le paiement fractionné, explique qu'elle a payé l'intégralité de la commande au site de vente de meubles et que donc elle exige des clients que les mensualités soient payées. Un commentaire, Jean-Marc ?
Dès qu'une entreprise fait faillite, c'est le début de procédures, de chicanes sans fin. Je pense que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand il y a faillite, il y a perte. Et quand il y a perte, il y en a qui laissent leur chemise.
Et puis on finit avec le coup de blues de Verena Balzen.
Oui, il s'agit de l'arrière-petite-fille de...
Biscuit Balzen ?
Hermann Balzen, les biscuits, voilà. Et à ce titre, Verena, 30 ans en janvier, avait quand même une carrière, on va dire, toute tracée au sein de l'entreprise familiale.
Est-ce qu'elle est mariée ?
Sauf que, vous allez voir, elle a craqué et démissionné de son poste de Chief Mission Officer en charge de la transformation durable du groupe. Et voilà comment elle explique sa démission. J'ai eu une crise panique dans un champ de blé allemand avec notre PDG. J'ai pleuré dans de nombreuses réunions. J'ai parfois été méchante ou impatiente. J'ai interrompu les gens alors que j'aurais dû écouter. J'ai été froide et dure alors que j'aurais dû rester douce. D'après vous, Jean-Marc, quelle formation avait suivi cette jeune héritière avant de commencer à travailler ?
Elle avait fait des études de commerce.
Alors, si on en croit Wikipédia, elle avait suivi des cours de communication et de gestion à Londres et New York, mais on ne précise pas dans quelle école, c'est toujours mauvais signe ça. Et surtout, elle n'a jamais obtenu de diplôme.
Voilà, bon. Ah, ça c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais de diplôme. Quand on a des diplômes, on est plutôt gestionnaire. Quand on n'a pas de diplôme, on est obligé d'être entrepreneur. Le problème c'est qu'elle est héritière, donc je pense qu'elle
c'est
risque d'être...
C'est peut-être ça plutôt son problème.
D'être ni entrepreneur, ni même gestionnaire.
Merci beaucoup messieurs, passez un bon week-end. Merci Pierre, merci Jean-Marc. Dans un instant, BFM avec vous.
BFM Business, l'info éco.
Inquiétude sur l'activité économique en zone euro à la une ce midi. Selon la dernière enquête S&P Global, l'inflation et la crise énergétique pèsent sur la demande et la confiance des entreprises, rendant encore plus pressante la menace d'une récession cet hiver. Si on prend la France, l'industrie marque un coup d'arrêt en septembre avec un recul de 0,8%. Toutes les branches sont touchées, mais le secteur automobile est celui qui accuse le plus fort repli. En revanche, les services résistent, même si l'activité baisse aussi, mais légèrement. Et dans ce contexte, la BCE se dit prête à en faire davantage si l'inflation persiste. Elle pourrait resserrer plus rapidement sa politique monétaire, le cas échéant. Christine Lagarde qui rappelle qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre les 2% d'inflation. Les mauvaises nouvelles s'accumulent chez EDF. La centrale de Cattenom en Moselle, qui devait être relancée le 17 novembre, va rester à l'arrêt jusqu'au 23 février de l'année prochaine. En cause, l'un de ses réacteurs doit subir des réparations. Il était à l'arrêt pour contrôle, mais l'autorité de sûreté nucléaire a détecté des problèmes de corrosion. EDF, qui vient déjà de revoir à la baisse sa production pour cette année. Période de résultats dans le secteur bancaire, la Société Générale fait mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires est en hausse au troisième trimestre, avec un produit net bancaire qui progresse d'un peu plus de 2% à près de 7 milliards d'euros. Mais la banque reste pénalisée par son retrait de Russie. Olaf Scholz demande des relations commerciales équitable avec la Chine. Le chancelier allemand est en visite à Pékin pour renforcer les échanges entre les deux pays. Il vient de rencontrer le président chinois Xi Jinping. Une visite qui crée la controverse alors que beaucoup en Europe se montrent méfiants et souhaitent sortir de la dépendance vis-à-vis de la Chine. Et puis les pays du G7 appellent la Russie à prolonger l'accord sur l'exportation de céréales. L'accord signé entre Kiev et Moscou sous l'égide d'Ankara arrive à son terme dans une quinzaine de jours et le Kremlin laisse planer la menace qu'il pourrait ne pas le prolonger. Allez, tout de suite, on va voir la tendance sur les marchés. Le CAC en forte hausse, plus 2,16% à 6378 points.
Merci Claire, votre prochain journal à 15h.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, et avant de recruter des cadres comme promis Lorraine, eh bien on va parler de nos mots de passe.
Oui, comment les sécuriser si comme nous à BFM Business vous faites ficher tentative de cyber-rançonner plusieurs fois par an, eh bien il faut rester branché. C'est notre expert Frédéric Simotel qui est avec nous pour répondre à vos questions. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors vous allez nous dire quels sont les pièges à éviter lors de la création du renouvellement de mots de passe, mais tout d'abord rappelez-nous quels sont les risques liés à une mauvaise gestion de ces mots de passe.
Bah, le principal risque, c'est évidemment de se faire piquer toutes ces données personnelles, alors des données bancaires, mais aussi des données qui peuvent être plus intimes, des données de santé, et que, voilà, et que tout ça parte dans la nature et que d'autres s'en servent pour faire l'usurpation d'identité. En fait, ces risques, ils apparaissent à quatre moments. Il y a lors de la création du mot de passe, donc il faut toujours faire attention que le mot de passe ne soit pas trop simple, trop facile à trouver. Et puis, vous savez, plus le mot de passe assez simple, plus les attaquants utilisent ce qu'on appelle des attaques par force brute, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions, ils lancent des moteurs qui vont faire tous les mots du dictionnaire, et qui vont tourner comme ça. Oui, c'est ça, c'est force brute, c'est ça. Ça vraiment va tenter toutes les solutions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, et voilà, etc. Donc c'est des logiciels comme ça. Donc première chose lors de la création. Ensuite, lors de l'authentification, il faut toujours faire attention. Alors, si vous êtes en entreprise, il faut que le RSSI, responsable des systèmes d'information, la sécurité des systèmes d'information, soit très prudent là-dessus. C'est au moment de l'authentification que tout ça soit bien chiffré. Hein. On ne conserve pas on rentre pas son mot de passe en clair. Vous savez, alors parfois vous pouvez appuyer sur le petit œil pour vous le voir, mais en général, voilà, il ne faut pas le saisir en clair. Et puis attention de ne pas vous le faire saisir aussi, enfin quand on ne soit pas à l'écoute de votre clavier. Donc au moment de l'authentification, lors de la conservation, ne surtout pas le conserver en clair. Ça c'est alors c'est pas vous
pas
l'utilisateur.
Pas sur un post-it à côté voilà, de son ordinateur.
Oui, alors ça c'est pour l'utilisateur, mais pour le gestionnaire des mots de passe, c'est ne pas avoir une base de données avec voilà le nom et les mots de passe à côté. Et puis lors du renouvellement, faire attention aux mécanismes de renouvellement qui sont faillibles. C'est les renouvellements où on vous demande pas une question secrète si vous avez oublié votre mot de passe ou si on ne fait pas une double authentification, on ne vous envoie pas un code sur votre smartphone ou sur une autre adresse mail. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, parce que derrière, c'est de l'hameçonnage, de l'ingénierie sociale. Enfin, c'est vraiment... Le plus grave, c'est vraiment... Alors, piquer vos corps, enfin, pour prendre vos coordonnées bancaires, mais surtout c'est l'usurpation d'identité, quoi. C'est derrière aller faire tout un tas de choses, ouvrir des comptes à la banque, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire lorsqu'on a usurpé l'identité de quelqu'un.
Alors, je choisis un mot de passe. Quels sont les conseils pour bien le choisir, Frédéric ?
Alors, je vais prendre les basiques et puis on verra aussi ce que propose CNIL. Le basique, c'est vraiment rien en dessous de 8 caractères. On peut casser le code en moins de 4 heures, voilà, pour vous dire. Déjà, quand on passe en 10 caractères et si on met des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, ça peut prendre 80 000 ans avant de trouver le code. Donc vous voyez la différence.
80 000 ans,
c'est 80 millénaires, oui, c'est un vrai chiffre. Et donc après, voilà, il faut se dire. Donc moi, je pense qu'il faut toujours moi, ma recommandation, c'est 12 ou 14 caractères. Voilà, et ensuite mettre des majuscules, des minuscules. Après, à vous d'avoir un mécanisme aussi propre. À vous, alors certains, c'est une phrase, les sangles longs de l'automne. Voilà, ils ont une phrase comme ça qu'ils vont avoir. Encore, celle-là est assez connue. Et ensuite, il y a tout un tas de petites méthodes. Par exemple, si je prends les sangles longs de l'automne, je vais prendre juste la première lettre de chacun de chacun des mots. Et puis, le S, ça ressemble à quoi ? Un 8. Donc le S, je vais le remplacer par un 8. Je vais le remplacer par un 4. Et comme ça, voilà, après, il faut avoir ce moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Et puis, évidemment, ne jamais utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes. Parce que quelqu'un, si votre mot de passe a été corrompu à un moment, bien, il peut le réutiliser partout. Moi, ce que je conseille souvent, c'est par rapport, c'est avoir un mot de passe, une base de mot de passe qui soit toujours la même. Et les 3-4 derniers, caractères soient liés au site. Voilà, est-ce que c'est la deuxième lettre, l'avant-dernière lettre du site? Si vous êtes sur Fnac Darty, vous allez prendre le N et le T, voilà, des choses comme ça, et puis mettre un petit dollar quelque part. Enfin voilà, faut avoir sa propre méthode de conception du mot de passe.
Bon, merci pour ces premiers conseils, Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que la CNIL, qui fait référence, conseille aux Français et aux Françaises?
Alors la CNIL, ils sont allés au-delà aujourd'hui de la longueur du mot de passe et du nombre de caractères. Ils parlent aujourd'hui d'entropie. L'entropie, c'est le concept qu'ils ont défini. C'est la qualité du hasard pour élaborer un mot de passe. Vous savez, souvent, vous avez la clé robuste, là, on vous demande ça, ou est-ce que je conçois mon mot de passe normal. Eh bien, la CNIL, elle recommande de passer par cette clé robuste qui est vraiment des lettres composées de façon totalement aléatoire. Parce que souvent, nous, quand on va composer un mot, alors, je vous parlais de la phrase, tout à l'heure, les sangles longs de l'automne, mais c'est des mots qui existent dans le dictionnaire. Donc, quand on va avoir des algorithmes de piratage encore plus sophistiqués, ils pourront aller chercher les phrases les plus connues et puis ils vont comme ça remonter. Donc, ne pas utiliser le dictionnaire. Et donc, elle recommande alors soit 12 caractères avec majuscules, minuscules, caractères spéciaux, soit 14 caractères, juste des majuscules, des minuscules, soit une phrase toute simple. On peut laisser un espace ou un underscore. Et puis après, selon les sites, elle dit voilà, faut voir si c'est juste sur votre blog, sur votre forum. Là, c'est pas obligé que ce soit un mot de passe très structuré. Dès que ça rentre dans votre mot de passe, pensez à le structurer davantage. Enfin voilà, il y a tout un mécanisme aussi à voir de ce côté-là.
Mais alors, vous nous conseillez de ne pas prendre le même mot de passe pour toutes les applications. Le problème, c'est qu'on en a des dizaines, voire des centaines. Et il existe d'ailleurs des gestionnaires de mots de passe.
Oui, il y a des gestionnaires de mots de passe. Alors, j'en ai pris quelques-uns qui sont gratuits. Hein. Donc, ça s'appelle Bitwarden, LastPass, KeePass, Dashlane. Alors, ils sont quand même protégés par un mot de passe, donc celui-là, il ne faut pas le perdre.
Parce qu'ils gèrent nos mots de passe,
mais
en fait.
C'est lui qui nous donne accès à cette petite boîte, ce coffre-fort, dans lequel, là, on a tous nos mots de passe. Donc là encore, pour élaborer ce mot de passe, il ne faut pas l'oublier. Avoir un mot de passe quand même robuste. Et derrière, utiliser ce logiciel. Et c'est vrai que c'est assez pratique, parce que ça, vous pouvez avoir un mot de passe pour tous les sites e-commerce, un mot de passe pour tous vos comptes des impôts, de la sécurité sociale, un mot de passe pour plutôt tous vos réseaux sociaux. Voilà, c'est souvent comme ça que les gens essaient de réfléchir.
Un mot, quand on quitte une entreprise et qu'on a des comptes professionnels, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que salarié avec ces mots de passe pro ?
Alors, sachez qu'on est obligé de donner son mot de passe à son employeur dès qu'on quitte l'entreprise ou même si on est en arrêt maladie. On est obligé de le donner, enfin, sur sa messagerie professionnelle, bien entendu. Hein. On ne va pas lui donner sa messagerie email ou l'accès à son compte en banque. Mais en tout cas, tout ce qui concerne l'univers professionnel, on est obligé de les donner. Donc là encore, petite astuce, ne prenez pas les mêmes dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle, parce qu'on... C'est jamais. Il peut y avoir des indélicatesses parfois par des collègues ou voilà qui peuvent aller voir. Tiens, si ça c'est son mot de passe à côté, est-ce que ce serait le même pour le reste et avoir accès à des choses plus personnelles chez vous. Mais en tout cas, vous êtes censé redonner vos mots de passe professionnels à votre entreprise.
Bon, très concrètement, si on reçoit une notification comme quoi nos identifiants ont été compromis, Frédéric, on fait quoi?
Alors, la première chose, c'est notifier la CNIL. Alors vraiment, si on sent que c'est quand même quelque chose de sérieux, mais c'est de notifier la CNIL parce que la CNIL peut remonter, parce qu'on va peut-être se rendre compte que c'est pas vous qui avez fait l'erreur, c'est vous êtes allé sur un site marchand et qu'en fait ce site marchand, sans le savoir, ils ont toute leur liste de clients avec leur mot de passe qui ont été corrompus. Donc déjà, ça permet de le prévenir, ça permet aussi de remonter si vous trouvez qu'il y a eu un vrai préjudice et que vous vous entamez une action en justice parce que ça vous a vous avez eu des pertes, des préjudices, ça peut être compter. Ensuite, s'imposer de changer son mot de passe, hein, ça paraît une évidence. Et puis, si on a un mot de passe qui est un peu constitué, je m'appelle Frédéric, j'ai appelé 01, 02, 03, eh bien, je vais peut-être devoir changer ses mots de passe un peu partout. Donc, parce que le pirate qui se dit ça se dit, tiens, Frédéric 01, je vais peut-être l'utiliser là en essayant 02, 03. Donc, il faut réfléchir à un nouveau mot de passe. Et c'est les principales recommandations. Cette notification de la CNIL est quand même importante.
Mais il faut qu'on en parle plus, d'encourager les gens à le faire. Si ça nous arrive, pas hésiter à contacter la CNIL.
Oui, faut toujours notifier la CNIL. Et puis être toujours vigilant. Vous entendez un jour dans la presse, telle société, tel opérateur télécom s'est fait pirater des mots de passe.
Uber, il
n'y a pas longtemps. Soyez très vigilant, parce que si vous êtes vous-même client d'Uber ou de tel opérateur télécom, c'est peut-être votre mot de passe qui a été corrompu. Si par hasard, c'est le même mot de passe que vous utilisez pour plusieurs comptes, eh bien voilà, on va faire l'association et puis on va remonter tout ça. Dernière chose aussi autour des mots de passe, on parlait de la conception, pensez à ne pas prendre, alors ça paraît évident ce que je dis, mais il y a tellement de gens qui le font, des choses personnelles, quoi, le nom des enfants, etc. Sortez de votre univers, quoi. Même votre sport préféré, il faut vraiment penser à autre chose, parce que les pirates avec l'ingénierie sociale, si vraiment ils vous ciblent, ils vont aller sur Facebook, sur Twitter, ils vont dire tiens, vous êtes passionné de tennis, vous êtes passionné de gymnastique, vous êtes passionné de tel acteur de cinéma ou telle actrice de cinéma, et vous allez pouvoir ainsi, ils vont essayer de reconstituer des mots de passe.
C'est important de le dire, effectivement. Merci Frédéric Simotel d'être venu nous voir. On fera une émission de ce genre, évidemment. Il y a beaucoup de questions, Lorraine.
On compte sur vous tous qui nous écoutez et nous regardez pour avoir changé votre mot de passe d'ici la fin de la pub.
Allez, restez avec nous dans un instant, on recrute.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission, on recrute. Lorraine, votre premier recruteur est Emmanuel Legros.
Oui, c'est le directeur du recrutement pour Capgemini France. Faut-il présenter Capgemini? Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous.
Capgemini, c'est un des plus gros cabinets, évidemment, de conseil et de transformation français. On va donner quelques chiffres pour faire le portrait de cette institution. 1967, date de naissance, du côté de Grenoble. Vous êtes présent dans beaucoup de villes en France, dans beaucoup de pays aussi, une cinquantaine. Et en France, on parle de presque 40 000 salariés, et vous êtes avec nous pour recruter. Qu'est-ce qui explique vos besoins de main-d'œuvre et de cerveau dans le contexte actuel?
Écoutez, nous avons la chance d'avoir une offre de valeur autour de la transformation digitale, et forcément aujourd'hui, post-Covid, mais tout s'est accéléré, des besoins énormes pour toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, pour prendre ce virage de la transformation digitale. Donc ça va concerner aussi bien le monde de l'IT, donc les domaines applicatifs de chez nos clients, mais aussi tout le monde des infrastructures, avec ces nouvelles infrastructures autour du cloud, avec toutes les contraintes liées à la cybersécurité, mais aussi toute la transformation digitale qui s'opère dans le monde industriel, donc dans le monde de l'ingénierie. Et donc chez Capgemini, donc on a la capacité à accompagner nos clients pour définir ces produits, ces services qui sont ceux que nous allons consommer dans les années à venir.
Alors détaillez-nous quelques postes dont vous avez particulièrement besoin.
Alors écoutez, la fourchette des compétences chez Capgemini, elle est énorme. Vous avez dit 40 000 collaborateurs en France, plus de 50 points de présence. Donc on a trois gros piliers d'activité, encore une fois. Donc, une première branche dans laquelle on est plutôt sur du conseil en stratégie au niveau des CXO, donc au niveau des décideurs chez nos clients. Là, on va recruter des consultants, grandes écoles qui vont porter ces messages et aider à réfléchir à ces transformations sur la durée. Quand on est dans le monde de l'IT, alors on va trouver des gens autour de la data et de l'IA, bien évidemment. Si on parle d'infrastructure, on parle de cloud, on parle de cybersécurité, on parle d'interconnexion entre tous ces systèmes, et l'interconnexion aujourd'hui, c'est la 5G. 5G qu'on retrouve à la fois dans des usages quotidiens, on a tous un téléphone portable aujourd'hui, mais que l'on va utiliser demain de plus en plus dans les entreprises pour interconnecter les systèmes, pour interconnecter aussi les voitures, par exemple, pour avoir des systèmes autonomes communiquant dans les années à venir.
Emmanuel, vous aviez un plan de recrutement pour 2022 très ambitieux, 9500 postes. Est-ce que vous avez recruté ces 9500 personnes ?
Écoutez, oui. On a fait ces 9500 et on a plutôt une projection fin d'année où on va targeter les 10 000 CDI. Donc ça fait de nous sans doute le premier recruteur de cadres en France, hein, puisqu'on parle de recrutement en population cadre. Alors à ces 9500, 10 000 recrutements CDI, à cela on ajoute 1000 alternants et 1000 stagiaires. Donc aussi des forts plans de recrutement à destination des jeunes diplômés, des écoles.
Quel va être l'objectif pour 2023 alors ?
L'objectif, écoutez, aujourd'hui, je crois que vous avez reçu notre PDG la semaine dernière qui parlait effectivement d'un ralentissement de l'activité, mais toujours d'une activité en croissance. Mmh. Donc, je suis pas très inquiet sur nos capacités à recruter l'année prochaine. Je pense qu'on sera dans des volumes de recrutement qui seront très proches de ce que l'on a connu cette année.
Comment on postule, Lorraine ?
Alors, c'est très simple. Ça se passe sur le site web de Capgemini. Vous avez entendu des profils de développeurs, de développeuses, d'architectes solutions autour des technologies du cloud et puis des profils de consultants, consultantes plus classiques. Tout ça se passe sur le site de Capgemini.
Merci beaucoup, Emmanuel Legros. On vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, LinkedIn, évidemment, sur cette adresse aussi avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous surveillez ce QR code grâce auquel vous tombez directement sur notre messagerie. Votre deuxième recruteur, Lorraine, est David Henry.
Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing d'Actillon. Avec vous, on est dans le test. Vous avez une équipe qui est spécialisée dans le fait de tester des sites web, des applications, des logiciels. Qu'est-ce que c'est le métier de testeur ?
Alors, Actillon, c'est la solution idéale pour les sociétés qui veulent faire tester une application ou un site web. Auparavant, lorsqu'une société voulait faire tester une application ou un site web, elle confiait cette tâche à ses développeurs. Or, les développeurs, c'est une ressource rare et chère. Avec Actillon, il est possible d'externaliser les tests à notre communauté de testeurs, ce qui permet de décharger les développeurs, d'où une économie pour les entreprises. Mais Actillon va encore plus loin, puisque au-delà de cette première couche d'économie, nous sommes une plateforme, nous ne sommes pas une société de conseil ou de service, et donc nous n'avons pas les prix d'une société de service, nous sommes bien moins chers.
Vous faites ça pour quel type de client ?
Alors pour tout type de client, aussi bien pour les startups qui n'ont pas de ressources de développement interne, typiquement, que pour les grandes entreprises qui veulent délester leurs ressources de développement.
Alors, vous avez un business model qui repose sur le modèle du freelancing. On va le dire tout de go, vous recherchez 3000 freelances pour venir occuper ce rôle de testeur chez vous. Quel profil, en 30 secondes, David, type il faut pour devenir testeur chez vous ?
Alors, ça peut être tout type de profil. Nous avons créé un système de ceinture, comme au karaté, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Et un testeur peut venir en tant que ceinture blanche, ou bien, s'il est développeur ou s'il a un certificat de test, il peut venir avec une ceinture plus foncée. Mais nous prenons tout type de testeurs et nous les formons en test.
Voilà, alors un mot quand même sur votre marché, hein, parce que le marché du test, c'est presque 1,6 milliard de dollars cette année. Ça va probablement doubler dans les prochaines années. Le test, David, c'est quelque chose que vous, vos consultants, vos experts métiers devez pratiquer quand vous êtes en mission chez vos clients ?
Évidemment, on peut pas. On travaille dans le monde du logiciel, nous aussi. On développe des logiciels, on développe des systèmes. On fait du test logiciel, mais on fait aussi des essais physiques, puisque quand on fait de l'ingénierie, on travaille sur des équipements physiques. Donc le test, c'est une offre d'une de nos filiales d'ailleurs, Sogeti, qui est experte dans la matière.
Des testeurs en freelance, on l'a dit, David Henry. Je vois que
Ils seront 100% en télétravail.
Ils seront 100% en télétravail. Et pour eux, nous sommes une solution facile et intéressante de revenus complémentaires. Facile d'abord parce qu'il n'y a pas de formation nécessaire. Donc un testeur peut venir et commencer ceinture blanche, suivre les formations en ligne et évoluer dans les rangs. Et également intéressante parce que nous rémunérons les testeurs. Chez Actillon, le slogan, c'est « Soyez actifs, nous vous payons, Actillon ». C'est de là que vient le nom de l'entreprise. Et voilà.
Et plus on trouve de bugs, plus on est payé.
Absolument. Donc il y a une prime spécifique pour les testeurs qui trouvent des bugs.
Bon. Le télétravail aussi occupe une grosse partie chez vous, culturellement, oui. Avant la crise ou depuis la crise
depuis
en particulier ?
Depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, nous avons des accords de télétravail. Avec la crise, on a enrichi nos accords de télétravail. Aujourd'hui, un collaborateur qui rentre chez Capgemini, il a le choix entre faire jusqu'à 70% de télétravail, donc et au minimum 4 jours par mois sur site. Donc, beaucoup de flexibilité chez nous.
Comment on postule, Lorraine, pour être testeur chez Actillon ?
Vous allez nous le dire, David ?
Alors, c'est actillon.com.
On va appeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast ACTIYON, parce qu'on nous écoute aussi beaucoup à la radio et en podcast.
Voilà, 3000 postes d'ici fin janvier, 3000 postes ouverts pour ces testeurs freelance.
Tout à fait.
Merci beaucoup, messieurs David Henry, Emmanuel Legros. Demain, j'allais dire non, pas du tout. Lundi, Lorraine, on parle de quoi ?
Alors lundi, on va parler du CPF. Vous avez peut-être vu notre émission mercredi avec la ministre en charge du dossier de la formation professionnelle et vous avez plein de questions dessus. Bien lundi, on va continuer à répondre à vos questions sur la formation professionnelle et spécifiquement sur le CPF. Autre exemple de question, comment connaître le budget temps formation auquel un salarié a le droit. Lundi, un avocat en droit du travail vient répondre à ces interrogations.
En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay. On vous retrouve lundi à partir de midi avec Jean-Marc Daniel, Stéphanie Colo pour 60 minutes business et BFM avec vous, avec Lorraine à 12h30. Très bonne journée, très bon week-end sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.